Chapitre 4. Comment s'est introduite la distinction de l'Église et de l'État? Le régime des castes orientales peut nous paraître absurde et anti-humain au point de vue où nous en sommes arrivés maintenant, mais il n'en est pas moins vrai que cette organisation présentait une grande beauté, beauté que rien n'a reproduit depuis au même degré. La société y était complète. Unité de religion, de gouvernement, de mœurs. Voilà une perfection qui reviendra toujours dans l'idéal de l'humanité. Mais cette perfection était achetée au prix des imperfections les plus grandes. La société était complète, il est vrai, mais l'homme ne l'était pas. Chaque homme était mutilé, fragmenté, tronqué. L'un avait le droit de la science, c'était tout membre de la caste sacerdotale. Mais il n'avait pas le droit gouvernemental pour cela. Ce droit était le privilège d'une autre caste, et celle-ci, à son tour, n'avait pas le droit de penser sur les choses supérieures. Ainsi, chaque caste avait son domaine limité, et chaque homme n'était qu'un fragment de l'homme véritable. Chaque homme était, pour ainsi dire, non pas un homme, mais un monstre par rapport à l'homme complet. Chez les Grecs, et surtout chez les Romains, l'humanité fit un grand pas. Non seulement l'État resta jusqu'à un certain point complet, c'est-à-dire religieux et politique à la fois, mais l'homme fut complet aussi. Car chaque citoyen fut à la fois investi nominalement du sacerdoce et du droit politique, comme je viens de le démontrer. Mais ce progrès ne s'accomplit que très imparfaitement. Car d'un côté, la religion était privée chez ses peuples de la lumière supérieure d'une théologie véritable, en sorte qu'elle n'était guère qu'un amalgame de superstitions, et d'un autre côté, le citoyen ne jouissait réellement pas de son droit religieux, ni de son droit politique. Il n'était donc homme complet que très imparfaitement, et plutôt virtuellement que de fait, de même que la société n'était une société complète que très imparfaitement. Le christianisme fut l'expression du besoin qu'avait l'homme d'être réellement émancipé. Les âmes énergiques, voyant que l'État absorbait le citoyen au profit d'une religion superstitieuse et d'une société pleine d'iniquité, ne trouvèrent d'autres ressources que de se mettre en dehors de cet État, qui, tout en reconnaissant la nature de l'homme sous le double rapport de l'intelligence et de l'acte, du sacerdoce et de l'empire, ne donnait réellement satisfaction ni à l'un ni à l'autre de ses besoins. Les sectes philosophiques commencèrent cette retraite hors de l'État. Elles s'enfermèrent dans leurs académies, dans leurs portiques, dans leurs jardins platoniciens, stoïciens, épicuriens, cherchèrent à l'envi des hauteurs où ils pussent échapper au fardeau du monde, au despotisme de l'Empire. C'est ce que Lucrèce appelle « sapientiae », Templa Serena. Bientôt, ce besoin de retraite et cette recherche du bonheur hors de la société civile devinrent contagieux et gagnèrent même le peuple. C'était à qui s'affranchirait de la société et de ses lois. Le christianisme vint achever l'œuvre des philosophes. Il proclama la dépendance de chaque homme par rapport à un Dieu nouveau et l'indépendance de chaque homme par rapport aux dieux anciens. C'était renverser l'Empire dans ses fondements, car chaque homme dépendant spirituellement du christianisme, à quel titre l'ancienne société pouvait-elle subsister? La religion nouvelle entraînait nécessairement une société nouvelle. Que fit-on pour échapper, autant que possible, à cette conséquence? On proclama la nécessité de séparer ce qui est inséparable. On demanda le divorce de la religion et de l'État, les sujets du roi nouveau, du Christ, consentirent en attendant son royaume à laisser régner César. Jésus, suivant l'Évangile, avait dit « Ma royauté n'est pas encore venue », ce qui voulait dire « Elle viendra ». On profita de cela pour dire à César « Régnez et gouvernez ce monde, mais laissez-nous penser, croire, espérer, laissez-nous former librement des sectes ». C'est ainsi que le principe de l'union de la religion et de l'État fut violé pour la première fois dans le monde. Ce qui était inévitable arriva, l'Empire se détruisit. Les lois romaines et les institutions romaines allèrent s'affaiblissant, comme un homme frappé au cœur, et qui perd tout son sang. Le sang, la vie se portait ailleurs. Dès le temps de Constantin, on ne savait plus où était l'Empire, s'il était chez les évêques ou chez les magistrats, dans les conciles ou dans les conseils de l'empereur. L'Église aurait tôt ou tard absorbé complètement l'Empire, et déjà elle était sur le point de le faire, lorsque les barbares arrivèrent. Ils prirent la place de César. Ils avaient une nature neuve, leur intelligence était simple et grossière, ils n'avaient pas passé par les évolutions d'idées qui avaient occupé la Grèce et Rome. Ils s'emparèrent donc du gouvernement de la société civile, tout en se soumettant à la religion nouvelle. Plus rebelles à la fois et plus dociles à cette religion que les gouvernements romains, qu'ils venaient déposséder, ils plièrent les genoux devant elle comme des sauvages, mais comme des sauvages aussi, il arrivait souvent qu'en se relevant, ils oubliaient leur soumission et leurs promesses. La religion eut à les civiliser, à les transformer. Ne pouvant les absorber, et trouvant en eux une virtualité inextinguible, elle ne put aspirer qu'à se conserver auprès d'eux, au-dessus d'eux, s'il était possible, mais en partageant l'Empire avec eux. Il en résulta que les castes revinrent. Le progrès accompli par les Grecs et les Romains, ce progrès qui consistait à constituer l'homme complet au sein d'une société complète, fut perdu pour un temps. Il y eut partout dans les divers États qui se formèrent deux mondes, deux empires, les successeurs du Pontifex Maximus et les successeurs de l'Impérator, la société spirituelle et la société temporelle, l'Église et l'État. J'ai montré suffisamment ailleurs comment ces deux sociétés ont constamment lutté l'une contre l'autre, avec des succès différents, depuis Constantin jusqu'à Luther. Jamais la société chrétienne ou l'Église, certains mystiques seuls exceptés, n'a voulu réellement abandonner le gouvernement du monde à César. Mais jamais non plus, elle n'a eu la force d'enlever en totalité à César ce gouvernement. La raison, je l'ai dite, c'est que l'humanité n'avait pu faire cet effort de s'arracher aux joues de l'ancienne société qu'en disant anathème au monde lui-même et en rêvant la fin prochaine de ce monde et l'avènement prochain d'un paradis imaginaire. J'ai montré aussi, dans l'écrit auquel je renvoie, comment toute l'histoire moderne n'est que le développement de la lutte entre ces deux sociétés et la manifestation du besoin qu'a l'homme religieux de reconquérir l'État, ou ce qui revient au même, du besoin qu'a l'homme émancipé civilement de reconquérir le droit religieux. Enfin, j'ai montré comment ce combat a eu lieu, c'est-à-dire avec quelles armes les laïcs ont lutté contre la société cléricale. Tant que la société laïque a été ignorante, elle a été esclave du clergé. À mesure qu'elle s'est éclairée, elle a senti qu'elle méritait d'être libre. La Renaissance, qui comprend la rénovation du droit romain, le protestantisme, qui est sorti de cette Renaissance, la philosophie, qui est sortie du protestantisme, sont les phases diverses de la croissance successive de la société laïque aspirant à reconquérir le droit religieux que la caste sacerdotale lui avait ravi. Il est vrai que même avant la Renaissance, la guerre existait déjà entre les rois, représentants de la société laïque, et les évêques et les papes, mais ce n'était qu'une guerre de violence et de passion, une espèce de pugilat aveugle. La société laïque n'a commencé à avoir conscience de son but que depuis qu'elle s'est substituée elle-même à ses rois et qu'elle a réclamé pour tous et pour chacun le droit civil ou politique et le droit religieux, c'est-à-dire le droit complet dont étaient investis, jusqu'à un certain point, les citoyens dans les républiques anciennes. Quel est donc, en définitive, l'ordre et la suite de cette grande évolution du genre humain? Aussi haut que nous puissions remonter, la société commence par les castes, perfection immense et imperfection grossière, car c'est la société complète, mais c'est l'homme incomplet et mutilé. La Grèce et Rome, en adoptant la forme républicaine, et en confondant la religion avec la République, sont un premier essai d'une société où l'homme serait à la fois prêtre et citoyen, mais c'est un essai fort grossier et fort imparfait. Les chrétiens, pour échapper à ce régime, où la virtualité progressive de l'esprit humain était retenue, imaginèrent de séparer la religion de l'État. La société cessa d'être complète, l'homme ne fut pas davantage complet, car il resta sujet temporel et esclave de César, en voulant lui échapper spirituellement. C'est maintenant à l'Europe de montrer un spectacle nouveau dans l'histoire, et dont toute l'histoire antérieure ne semble qu'une prophétie. Il s'agit de constituer une société complète où l'homme soit complet. La société laïque, en combattant le clergé et en anéantissant le christianisme, s'est engagée tacitement à remplacer le christianisme et le clergé, car elle a opposé partout un esprit nouveau à l'esprit ancien, le germe d'une religion à une vieille religion. Elle a opposé la philosophie à la théologie. Mais qu'est-ce que la philosophie, sinon une science qui, au fond et en définitive, traite les mêmes questions que la théologie? Elle a opposé le droit civil au droit canonique, mais le droit civil et le droit canonique ont le même but, ce sont deux législations. Le droit canonique renversé reste donc la législation des laïcs par les laïcs. Or, qu'est-ce qu'une législation sans principe? Il faut donc que le droit civil arrive à des principes, il faut donc qu'il s'appuie sur une religion. La lutte des deux sociétés s'est en définitive formulée ainsi. La société laïque a dit à l'Église « Je n'ai pas besoin de vous, je puis me suffire à moi-même. J'ai des savants, des philosophes, des jurisconsultes, des artistes. Qu'ai-je besoin de votre tradition historique, de votre théologie, de votre gouvernement, de votre culte ?» Montrez donc, en effet, peut-on dire maintenant à la société laïque, montrez que vous ne vous êtes pas engagé témérairement dans ce combat et soutenez votre défi. Vous avez repoussé l'ancienne religion, c'est apparemment que vous êtes capable de vous organiser religieusement. Car jamais peuple n'a subsisté et jamais peuple ne subsistera sans religion. Il faut avouer que la société laïque n'a pas encore tenu ses engagements, et voilà pourquoi elle s'agite aujourd'hui dans une épouvantable indécision. Comme effrayée de ce qu'elle a fait, elle n'ose continuer son ouvrage « Pendent opera interrupta ». Et c'est pour cela aussi que la vieille et absurde distinction des deux règnes, du spirituel et du temporel, de l'Église et de l'État, a commencé à reparaître. Forcés de faire halte dans la voie de l'unité religieuse et politique, nous sommes revenus à nos anciens errements. Nous avons cru avoir tout fait en proclamant ce que nous appelons la liberté des cultes, confondant avec les sectes qui sont une absurdité et un mal, la pensée religieuse individuelle qui est une nécessité et un droit. Nous aurions dû proclamer la liberté de la conscience individuelle et en même temps l'unité indivisible d'une religion nationale. N'ayant pas la force de constituer cette religion nationale, nous avons mis, comme on dit, la religion au concours, nous avons admis les sectes. Nous en sommes là aujourd'hui. Or, devons-nous continuer à marcher dans cette voie, c'est-à-dire, devons-nous faire de nous-mêmes deux parts, être sectaires d'un côté, citoyens d'un autre, appartenir à une Église et à un État, être membre de la République chrétienne et membre de la République française, avoir un pape à Rome et un monarque ou une convention à Paris? En un mot, la dualité célèbre du pape et de l'empereur doit-elle subsister? La distinction des deux règnes, du spirituel et du temporel, est-elle raisonnable et doit-elle être maintenue? Ou au contraire, devons-nous revenir à l'unité? Sommes-nous tous prêtres comme nous sommes tous citoyens, et par conséquent avons-nous le droit de décider nous-mêmes, démocratiquement, de notre religion comme de notre gouvernement politique et de nos lois civiles? Voilà la question. Quoi qu'il en soit, il est bien évident que c'est cette habitude où nous sommes de distinguer l'Église de l'État qui nous persuade qu'un peuple pourrait subsister sans religion. Habitués à prendre le parti de la société laïque dans la lutte entre l'Église et cette société, nous repoussons l'Église sans remarquer que l'Église serait d'une nécessité absolue pour la société laïque si cette société, en se développant, en s'éclairant, ne devenait pas elle-même une Église véritable. C'est donc le préjugé qui nous inspire cette idée, qu'une société peut subsister sans religion. Oui, peut-on répondre à ceux qui pensent ainsi, pourvu qu'elle conserve encore, comme nous le faisons aujourd'hui, une religion à laquelle vous-même faites profession de ne pas croire. Mais ce n'est pas alors être sans religion. C'est pour le peuple être livré à l'ignorance et à la superstition, pour les grands être hypocrite et athée. La société laïque, au point où elle est maintenant, ressemble à un jeune homme qui sort de minorité. Le despotisme paternel lui pèse, et déjà, il veut se conduire lui-même dans la vie. Il se sent homme, mais dans le premier feu de l'âge et des passions, il ne voudrait avoir de la liberté que les bénéfices, sans en avoir les charges. Volontiers, il consentirait à ce que son héritage fût, comme autrefois, administré sans lui, pourvu qu'il en touchât les revenus, et pourtant il ne voudrait pas abandonner sa propriété à son intendant. Cet intendant n'est pour lui qu'un valet. Ainsi nous sommes aujourd'hui avec l'Église. Nous sentons bien que le domaine qu'elle avait usurpé est à nous, que c'est notre bien, notre héritage. Plus encore, car c'est la propriété de nous-mêmes, la propriété de notre âme, la direction de nos actions, le gouvernement de nos cœurs, du cœur de nos enfants et de nos femmes. Nous sentons cela, dis-je, et pourtant nous répugnons à nous en charger nous-mêmes. Il nous semble que nous pouvons vivre encore sans nous occuper de cela. Nous voudrions n'accepter de notre héritage que la liberté, c'est-à-dire, pour employer le langage du XVIIe siècle, une sorte de libertinage qui nous permette de penser le pour et le contre sur toute chose, d'avoir des accès de religion ou de n'en pas avoir, de croire ou de ne pas croire, et nous voudrions faire passer ce goût de notre esprit dans la loi même et dans le gouvernement de l'État. Nous sommes en cela inconséquents et absurdes. D'un côté, nous repoussons, nous détestons le joug de l'Église, mais nous conservons ce joug puisque nous le rendons nécessaire. Nous sommes fiers de notre émancipation, mais nous n'en prouvons pas la solidité, puisque nous ne la conduisons pas à ses conséquences inévitables. Il est impossible de raisonner plus faux et de vivre avec plus d'imprévoyance. En repoussant la religion, en soutenant qu'une société peut s'en passer, nous rendons nécessaire, indispensable, la queue du catholicisme que nous traînons après nous. Nous avons fait de l'Église une ruine, nous ne faisons de l'État qu'une ébauche imparfaite. Solidifiez et achevez votre édifice, si vous voulez qu'on enlève ces vieilles constructions sur lesquelles il s'appuie encore. Il y a plus. Nous avons, pour ainsi dire, une arrière-pensée. Nous disons tout haut, à quoi bon une religion? Ne peut-on pas vivre sans cela? Et tout bas, ne voyez-vous pas bien que nous en avons une dont nous ne pourrons jamais nous débarrasser? Mais supposez, puisque depuis plusieurs siècles la société laïque a tendu là, supposez que l'Église chrétienne soit complètement décréditée et abolie, dites-moi comment la société subsistera alors, comment elle élèvera ses enfants, comment elle fera la loi, au nom de quel principe, au nom de quel dogme.